Bonjour et bienvenue à tous dans la matinale
infernale.
Et oui, la matinale infernale, c'est l'émission de Graphite qui dynamite votre réveil. Je vous rappelle le principe en deux mots, on forme des amateurs de divers horizons à la création de chroniques pour la radio à travers une série d'ateliers qui ont lieu à la bibliothèque Saint-Corneille ou en classe lorsque je travaille avec des scolaires. Cette semaine, comme les semaines passées d'ailleurs, nous avons tous nos chroniqueurs qui sont là. Honneur aux dames, Fatih.
Et chroniqueuse, allô.
Pardon. La marin baladeuse.
Bonjour.
Elsa.
Bonjour.
Et Antoine.
Bonjour.
Moi, je suis Aurore. J'anime ou participe déjà à d'autres émissions sur Graphite que vous pouvez entendre, comme les rendez-vous culture et séries des bibliothèques de Compiègne ou le Tilt Show, ce micro-poker. Eh bien, nous allons commencer aujourd'hui par une petite balade en Italie, mais un peu différente de d'habitude. Pas vrai, Christine ?
Oui, absolument. Non, pas trop loin aujourd'hui.
Il parmigiano, lo zafferano, la mozzarella e la cannella, la pasta al pesto, il pollo arrosto, il baccalà.
Si je vous dis il bel paese, vous le reconnaissez ? La beauté naturelle et la richesse culturelle. Allez, chevauchons la Vespa, je vous y emmène. Lors de ma dernière chronique, je vous avais promis le Latium. Finalement, nous restons en France, à la Libreria. Traduction, la librairie, bien entendu. Un piccolo luogo, situé 89 Faubourg Poissonnière à Paris 9e, qui fête ses 20 ans cette année. Florence Rau, sa créatrice, passionnée par le métier de libraire, l'est aussi d'Italie depuis 40 ans. De ces deux passions naquit la libreria. La motivation au quotidien de Florence Rau est mue par tutta la vita italiana. Accompagnée de son comparse Andrea Deritis, ils font vivre ce lieu d'échange, de partage, etc. C'est cette histoire passionnante que Florence relate ici. J'ai d'abord demandé à Florence sa relation aux clients et les conseils qu'elle leur prodigue.
Le conseil aux clients, c'est... ce sont nos lectures à nous, mais on essaye évidemment de s'adapter aussi à nos lecteurs. La librairie est une librairie où vous trouvez des textes classiques, pointus, mais aussi des textes plus simples qu'on est prêt à conseiller aux lecteurs.
J'ai alors voulu savoir ce qu'elle pensait du lien du public français à la culture italienne. Écoutez bien ce qu'elle m'a répondu.
Les Français aiment l'Italie. N'importe quel endroit en Italie recèle des trésors tellement extraordinaires qu'il est difficile de ne pas avoir envie de visiter l'Italie, de ne pas avoir envie de goûter à la cuisine italienne.
Voilà qui est dit. Les Français aiment l'Italie et ses trésors. Mais Florence sait-elle comment faire vivre et grandir cette relation ?
Comment le faire vivre ? Je pense que c'est simplement, en l'occurrence, en étant nous-mêmes, que ce soit. Mais on essaye autant que possible d'être à l'écoute des lecteurs. On essaye autant que possible d'être au service des gens qui viennent ici. Et c'est un plaisir parce que c'est, de toute manière, c'est souvent des échanges très riches qui vont dans les deux sens. On se laisse conseiller aussi par nos clients.
Florence décrit ses activités avec engouement. Et des échanges riches qu'elle entretient avec les lecteurs se dégage un plaisir qui semble intarissable.
Cet enthousiasme qui dure depuis 20 ans, ce sont toujours des occasions de rencontres, de découvertes de livres, d'auteurs nouveaux, d'autrices nouvelles. C'est toujours un bonheur. Et puis la rencontre avec les lecteurs. C'est vraiment le... une joie de venir ici, et je le dis sans être, c'est pas de la mièvrerie, il y a vraiment un plaisir de cet échange.
Alors j'ai profité de cette discussion et de cette joie communicative pour obtenir un conseil de lecture et prolonger ainsi la magie de cet entretien. Je vous le confie.
Si je devais peut-être choisir là en ce moment un livre, en quelques mots, vous parlez de La récréation est finie de Dario Ferrari, qui est sorti aux éditions du Sous-sol et qui est chez Sellerio, éditeur en italien, La récréation est finie, qui est un livre absolument fabuleux, très drôles et en même temps très cruels, et qui nous plongent dans le monde de l'université en Italie. Et dans une seconde partie, on replonge dans les années 70-80, le moment des années de plomb, mais en province, dans la province italienne. Donc c'est un portrait aussi de... Ça se passe à Viareggio, sur la côte toscane. Et c'est à la fois très drôle, et j'ai appris beaucoup de choses dans le livre, et tout en souriant, néanmoins sur un sujet grave, quoi.
Il me restait à prendre congé de Florence, qui avait enjoué ma journée. Mais je savais désormais qu'il existait un lieu à Paris qui me ferait voyager dès que je pousserais la porte de la libreria. Encore merci à Florence, dont la ville homonyme a vu naître les plus grands auteurs de la langue moderne italienne. Si vous en doutez encore, je vous renvoie à l'écoute des deux précédentes chroniques. À bientôt.
Ah, quelle transition pour faire vivre notre émission. Et oui, les deux précédentes chroniques où tu nous parles du coup de littérature en Toscane notamment.
Absolument.
Nous allons revenir à un sujet qui tient beaucoup à cœur à l'une de nos chroniqueuses.
Non mais à tout le monde, j'espère. J'espère que ça tient à cœur à tout le monde.
Vous l'aurez compris, c'est Fatih la féministe qui va enchaîner.
Hello tout le monde! Comme promis lors de ma précédente chronique, je m'en vais vous présenter les résultats tangibles, juridiques et culturels de la quatrième vague du féminisme sur laquelle nous surfons actuellement. Le temps où on devait attendre des décennies à minima pour que le monde protège les droits des femmes est révolu. Le législateur va vite, très vite, étonnamment vite. Technologie numérique oblige. Et ces résultats sont particulièrement visibles en France. Résultats visibles d'un point de vue législatif d'abord, avec l'IVG, qui est désormais inscrite dans la Constitution française depuis 2024, par crainte aussi d'un...
2024
effet... 2024, oui.
Ah, non, mais c'est il n'y a pas longtemps, quoi.
Ah bah oui, tu vois, c'est tout récent, mais là, tout va vite, là.
Je suis choquée.
On est en plein dedans, là, tu vois. T'es en train de surfer sur la quatrième vague. Hein. Ensuite, résultat visible avec les lois sur le consentement sexuel. En France, en 2018, la loi Schiappa crée l'infraction d'outrage sexiste pour verbaliser le harcèlement de rue et allonge les délais de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs. En 2021, tout récent, hein, est fixé un seuil de non-consentement à 15 ans et à 18 ans en cas d'inceste. En dessous de cet âge, le consentement ne peut désormais pas être présumé. Et c'est en réponse, entre autres, à l'affaire Matzneff et des hommes de la rue du Bac à Paris, ou encore sous l'effet du, encore un hashtag, hein, MeToo inceste. L'Espagne, quant à elle, elle est allée plus loin avec la loi Solo Si Es Si, c'est-à-dire seul un.
Oui est un oui.
C'est clair. Inspirant d'ailleurs le Parlement européen qui adopte en cette fin d'avril 2026 une résolution pour une définition du viol, commune à tous les États membres. Cette résolution permettra à la Commission européenne d'ici 2029, c'est demain, hein, de légiférer sur la notion de consentement. Résultat visible aussi avec la reconnaissance du féminicide. Même si le terme n'est toujours pas dans le code pénal, il est désormais utilisé par les politiques et les médias, permettant un meilleur comptage et un traitement des meurtres conjugaux. Et oui, ce n'est plus un crime passionnel. Oh le pauvre, il l'aimait tellement qu'il n'a pas pu s'empêcher de la tuer. Bon, je pourrais le dire au féminin aussi, ça existe. Oh la pauvre, elle l'aimait tellement qu'elle n'a pas pu s'empêcher de le tuer. Résultat visible également dans les entreprises et les institutions avec la chute de figures jusqu'alors intouchables de Harvey Weinstein aux États-Unis à des figures françaises telles que PPDA, Gérard Depardieu, en passant par Epstein. L'immunité sociale des hommes puissants s'est effritée. Même sans condamnation judiciaire, la sanction sociale et professionnelle est réelle. Visible aussi avec la création d'un nouveau métier au cinéma, les coordonnateurs ou coordonnatrices d'intimité, qui gèrent des scènes un peu olé olé et s'assurent du consentement des acteurs ou des actrices. Visible aussi avec la mise en place de cellules d'écoute dans la plupart des grandes entreprises, universités, établissements scolaires, les politiques RH se sont durcies, ce qui passait en fait pour la pour de la camaraderie virile ou de la séduction au bureau, est désormais scrutée, en tout cas, sous l'angle du harcèlement potentiel. La quatrième vague a également façonné notre façon de parler et de voir. Et là est peut-être l'impact le plus profond. Des termes académiques sont rentrés dans le langage courant, tels que charge mentale, culture du viol, masculinisme, mansplaining. C'est quoi mansplaining ? Interrogation, je vous le dis. Ce terme désigne la fâcheuse tendance de certains membres de la gente masculine à prendre les femmes pour des bécasses, en leur expliquant de manière condescendante et ou infantilisante des choses qu'elles savent déjà. D'autres termes comme emprise, male gaze, c'est lorsque les personnages féminins sont sexualisés et que la caméra, eh ben, elle s'attarde un peu trop sur les formes d'un corps féminin, alors que c'est même pas utile pour l'histoire, vous voyez ce que je veux dire. Alors, il y a aussi le terme du harcèlement, du coup, qui autrefois était considéré comme de la drague lourde ou de la gauloiserie. Désormais, voici venir la female gaze, c'est-à-dire le regard féminin, qui prend de l'essor avec une explosion d'œuvres, films, séries, livres, comme celle de notre présentatrice, hein, qui nous écrit des livres en tant que femme, et l'a raconté du point de vue donc, des femmes, brisant ainsi les stéréotypes narratifs classiques. Je vous invite à visionner d'ailleurs Portrait de la jeune fille en feu, Barbie aussi, ou encore L'anatomie d'une chute. Bon, évidemment, je ne suis pas rémunérée pour faire la pub. Hein. Je n'ai pas assez de cas sur les réseaux, il faut le dire. Hein. Bon. Et aussi, dernière chose...
Un conseil, ça se prend.
Voilà, un conseil gratuit. Et le voilà enfin l'éclaircissement de la dite zone grise. Les différents mouvements féministes ont permis à la société de comprendre la notion de sidération. C'est-à-dire le fait que la victime soit paralysée en fait, par la peur et incapable de parler ou de bouger, expliquant pourquoi tant de victimes ne se sont pas débattues. C'est le fameux cerveau reptilien, en fait, hein, celui qui nous aide à survivre, qui s'enclenche. Et je vous invite à regarder un court extrait de la série Sous influence sur Arte qui explique clairement ce qu'est la sidération dans ce genre de situation. Vous pouvez aussi d'ailleurs le retrouver, ce petit extrait vraiment très parlant, sur le Facebook de Nous Toutes, association féministe. Le hashtag MeToo y est pour beaucoup à tout ça. Car oui, il y a un avant octobre 2017 et un après, que je vous exposerai lors de ma prochaine chronique.
Ouh,
you.
Merci beaucoup Fatine. Non, mais c'est dingue de voir qu'il y a des choses qui sont quand même courantes pour nous maintenant, mais qui sont dans la législation depuis si peu.
Si peu, oui, effectivement.
Ce qui ne veut pas dire qu'on l'applique depuis si peu, mais...
Mais ça bouge, c'est ça. Hein.
Au moins, là, on a vraiment nos droits, ils sont là, quoi.
Oui, exactement.
Tu nous as choisi une chanson bien féministe. Il s'agit de Flowers, de Miley Cyrus. Et pour la petite anecdote, cette chanson, où elle nous dit qu'elle peut se tenir la main toute seule, se parler à elle-même, s'acheter des fleurs et j'en passe, c'est la réponse à une chanson de Bruno Mars, qui est très belle aussi, mais qui s'appelle If I Was Your Man. Voilà, si j'étais encore ton homme, j'aurais dû t'emmener danser, j'aurais dû t'acheter des fleurs, j'aurais dû faire ceci. Et elle lui dit non, c'est bon, je n'ai pas besoin de toi. Mais je trouve que la petite anecdote est sympa. Mais bon, ce sont toutes les deux de très belles chansons. On va écouter donc Miley Cyrus.
We were good. We were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers.
dance the roses that you lay. No remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, babe. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers.
Voilà, sur Graphite, dans notre matinale
infernale.
Nous allons enchaîner avec un autre voyage après l'Italie et les vagues de surf de féministe, du féminisme pardon, de Fatih. Nous allons repartir au Japon grâce à Elsa.
Prêt pour un nouveau départ pour le Japon ?
Oui !
Oui !
Oui ! Vous avez raison de vouloir retrouver ce pays merveilleux. Aujourd'hui, on parle des arts martiaux. Vous en connaissez sûrement quelques-uns. De moins, du nom. De nom. Car au-delà de l'idée du sport de combat, les arts martiaux sont des alliages précis combinant des techniques de combat, mais aussi des valeurs culturelles et un développement spirituel. Mais connaissez-vous leurs origines ? Eh bien, figurez-vous qu'il s'agissait des méthodes d'entraînement des samouraïs, des guerriers japonais. Si vous avez la chance de prendre un cours d'art martial au Japon, il commencera toujours par les mots « budo »,« bujutsu », »,« bugai », répétés comme un hymne. « Budo » signifie « voie de la guerre » et désigne la pratique comme un mode de vie intégrant des dimensions physiques, morales et spirituelles. « Bujutsu » correspond aux techniques de combat appliquées à des situations réelles. « Bu » signifie « combat » en vieux japonais, et jutsu signifie art. Bugai est axé sur le développement et l'adaptation des techniques martiales dans un cadre pédagogique. Il est associé à des rites spirituels réalisés avant les combats. Partons à présent ensemble à la découverte de ces arts ancestraux, qui restent bien méconnus du reste du monde. Commençons par le plus connu de tous, le judo. Ce nom signifie « voie de la souplesse », ce qui fait parfaitement écho à l'âme de cet art. Créé en 1882 par Jigoro Kano, il combine force musculaire, contrôle de soi et de son corps, ainsi qu'un esprit stratégique capable de réagir à toute épreuve, donc souplesse de corps et souplesse d'esprit. Il se pratique en judogi, un kimono de combat. Le judo est devenu un sport olympique en 1964, et depuis, le Japon a remporté 54 médailles d'or, faisant de lui le géant du judo olympique.
Oh wow.
Vient ensuite le karaté, également renommé. Karaté signifie « voie de la main vide ». Cet art est originaire de la préfecture d'Okinawa, une petite île japonaise au large de la mer des Philippines. Il mêle des techniques offensives et défensives utilisant les pieds, les mains et les coudes. Lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, il est devenu un sport olympique. L'aïkido est un art martial dont le nom signifie « voie de l'harmonie et de l'énergie ». Il a été créé par Morihei Ueshiba dans les années 1920. Il est basé sur une philosophie simple, utiliser la force de l'adversaire contre lui. Cet art est plus axé sur la maîtrise de soi et le développement personnel que sur la compétition. Je vous ai cité les trois arts martiaux les plus pratiqués au Japon. Bien au-delà de la compétition, des objectifs et de l'ambition, les arts martiaux incarnent la discipline de l'esprit, la maîtrise de soi et le respect des valeurs traditionnelles. Chaque discipline représente une voie, caractérisée par le suffixe « do » qui signifie « voie » ou « chemin ». Ces voies incarnent le chemin vers un déité correspondant, selon l'art, au contrôle, à la force ou encore à la stratégie. L'apprentissage physique est de ce fait indissociable de la spiritualité et de l'éthique. L'enseignement met l'accent sur l'harmonie, la patience et la persévérance avec la nature de l'adversaire. En conclusion, les arts martiaux sont à la fois un héritage historique et un mode de vie moderne. Ils combinent combat, développement personnel et culture traditionnelle. Ils continuent d'influencer le monde entier, tant sur le plan sportif que philosophique, et restent un symbole fort de la culture japonaise. Et voilà, c'est tout pour cette fois. Mais j'ai hâte de vous retrouver pour vous en apprendre toujours plus sur le pays du soleil levant.
Merci Elsa. On n'a pas un super champion en France de judo. J'ai peur de dire une bêtise parce que...
De dire une heure.
Ah merci, c'est à lui que je pensais, mais j'avais vraiment peur de dire une bêtise. Merci Antoine. Moi tout de suite, les arts martiaux, ça me fait penser aux tortues ninja, c'est ma jeunesse.
Les ninjas aussi, c'est des samouraïs rebelles.
Ah oui, c'est vrai que c'est pas la même chose que toi. Enfin, t'es vraiment dans l'esprit de la discipline.
Oui.
Ouais, c'est sûr qu'eux, à part les pizzas... Eh ben, on va enchaîner avec toujours plus de sport, n'est-ce pas, Antoine ?
Oui.
Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui, tout donné.
Bonjour à tous. Lors d'une précédente chronique, je vous ai parlé de mon club d'athlétisme, TCAP 60, à Marny-les-Compiègne. Je vous ai dit que l'ambiance est géniale et conviviale. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter plus précisément l'un des coachs du club. Pour commencer, je vais les laisser se présenter.
Alors, je m'appelle Guillaume Coudray. Je suis prof d'EPS au collège Côte de Bussy à Marny-les-Compiègne et également entraîneur dans un club d'athlétisme à Marny.
Après cette courte présentation, je lui ai demandé pourquoi avoir rejoint le club.
En fait, je suis le papa d'une athlète qui voulait faire de l'athlétisme. Et comme je connaissais l'entraîneur de un des entraîneurs, un des cofondateurs du club, il m'a proposé de les rejoindre pour faire partie du bureau de Team Course à Pied 60, TCAP 60, et de aider également d'entraîner les jeunes collégiens.
Je me doute que s'il a pris cette activité d'entraînement des jeunes collégiens, c'est qu'il aime ça, mais pourquoi ?
Oui, c'est une passion, j'adore ça. C'est des enfants que je connais via mon métier, l'intermédiaire du collège, et qui m'ont rejoint dans la structure fédérale, qui n'est pas loin du collège. C'est un club qui, la piste d'athlétisme est à 400 mètres, 500 mètres du collège. Donc j'adore ce que je fais avec eux.
Ensuite, je lui ai demandé son avis sur les infrastructures du club.
Alors la piste a été refaite il y a quelques années. C'était une vieille cendrée qui prenait l'eau, qui se transformait en boue quand il pleuvait. Maintenant c'est un beau tartan, c'est une piste tout à fait correcte. Il y a un sautoir de saut longueur qui est bien. Par contre, on n'a pas de structure intérieure quand il pleut et puis on n'a pas d'air de lancer. Donc c'est un problème notamment pour les Benjamins.
On est content de savoir que la piste a été refaite parce qu'ils ne nous vendaient pas du rêve au début hein, quand même.
Enfin, pour finir cette interview, je l'ai interrogé sur les entraînements et leurs horaires.
Alors oui, on fait une séance sur la piste le jeudi soir. Juste après le collège, c'est très pratique pour les enfants. Ils peuvent nous rejoindre après leur journée d'école très facilement. Et puis maintenant c'est nouveau, on fait un entraînement le samedi matin en forêt avec Nicolas Roussel qui me rejoint pour entraîner avec moi, spécialiste du trail le samedi matin. C'est super.
Bon bah merci.
Merci à vous, jeune journaliste.
Jeune journaliste.
Ouais.
Bravo Antoine.
Bravo. Merci.
Oh, c'était chouette. Tu y vas en plus le samedi matin, toi?
Oui. Merci. Enfin, ça dépend. J'y vais des fois le jeudi, des fois le samedi.
Très bien, très bien. Bah, c'est chouette. C'était sympa d'avoir ces deux interviews aujourd'hui dans notre émission. Émission qui touche malheureusement déjà à sa fin. Cela dit, on vous a quand même choisi une petite chanson pour terminer. Il s'agit de Jackie Chan, qui est un mix de Tiesto et Dzeko. Je pense que vous allez bien rire avec cette musique et que vous allez avoir la pêche pour votre week-end. Merci à toutes mes chroniqueuses et à mon chroniqueur du jour.
Merci à toi, Aurore.
Merci.
Bon week-end à nos auditeurs et à bientôt pour une prochaine matinale
infernale. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Drop top, how we rollin', down on call it South Beach. Yeah. Look like Kelly Rollin', this might be my destiny. Yeah. She want me to eat it, I guess dinner's on me. You know I got the sauce like a fucking recipe. She just wanna do it for the grand. You know she just want this money in my hand. I'ma give it to her when she dance, dance, dance. Ay. She gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Jackie Chan. I think you got the wrong impression about me back. Just cause they heard what hood I'm from, they think I'm crazy. Okay, well maybe just a little crazy. Just a little. Cause I admit I'm crazy about that lady, yeah, yeah. Finger to the world as fuck you pay. I've been slaving. Gun the pussy cause I'm running out of patience. No more waiting, no, no. Bouncing like a yo-yo. Living life on fast forward, but we fucking slow-mo, yeah, yeah. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man.